Merci, merci Nicolas. La chaleur des applaudissements des deux, pour les deux exposés nous laisse penser que nous aurons une discussion animée. J'aurais beaucoup de choses à dire sur chacun. Comme il est d'usage, je vais dire quelques mots, pas très longs. Marie-Josée. Finalement, tu, pour résumer massivement ton propos, il me semble que tu indiques la psychanalyse comme un moyen de changer le rapport du sujet au récit. Alors, on voit bien la dimension bienfaisante du récit. Tu as insisté beaucoup là-dessus, Nicolas. Ça fait toujours du bien de tisser une histoire. Pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai encore fait, et à ce moment-là la machine à produire des explications se met en route. Alors j'aimerais que tu précises ce qui donc par une analyse se modifie des rapports du sujet au récit. Première question. La question à Nicolas. Tu as parlé du contenu essentiellement de ce que tu as lu. Mais en lisant ton témoignage, sur ces témoignages, je me suis dit que finalement, il y avait quand même pas mal de gens qui écrivaient. Et moi aussi, ça m'arrive à l'occasion, plus comme quand j'étais adolescent, et encore, ça n'a pas duré longtemps à l'époque, mais il y a des périodes de crise où certains sujets, plus que d'autres, pas tous, se sentent obligés d'écrire. Même si les papiers finissent à la poubelle ou rangés au fond d'une armoire. Par exemple, je ne sais pas, ça serait intéressant, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qui de nous a écrit des notes sur son analyse. Moi, ça m'est arrivé, et pas tout le temps, par période. Donc, je te pose la question, au-delà des tentatives qu'on voit bien, tu le dis très joliment, étouffantes d'embrasser un sens devant le « pourquoi ça m'arrive maintenant ? Qu'est-ce que c'est que ce... » J'avais hier soir au téléphone un de mes amis très chers qui est non pas atteint d'un cancer, mais d'une maladie qui risque de mal finir et très, très, très invalidante, alors qu'il n'avait rien avant. Ça lui est tombé dessus. Et il m'expliquait qu'il payait, il m'a décliné ce qu'il payait par cette maladie. Donc ça m'a amené à toute une série d'élucubrations sans savoir ce que ça voulait dire, ce qu'on payait et ce qu'on portait par là. Mais je ne vais pas les développer ici. On voit la dimension quand même anti-freudienne, d'une certaine façon. Moi, j'aime beaucoup la référence de Freud, enfin cette phrase de Freud, quand il dit « il faut un haut degré de civilisation pour croire au hasard ». C'est vrai ? Alors, je pense que moi, je suis très réservé, pour parler gentiment, vis-à-vis de tout ce qui est psychosomatique, justement. Et moi-même, cet ami qui est psychiatre, mais n'est pas psychanalyste, qui pense qu'il paye quelque chose, je lui expliquais que le corps avait ses propres régulations dont nous pâtissions à un moment ou à un autre.
C'est moins séduisant.
C'est moins séduisant, est-ce que c'est plus grave ou plus angoissant, j'en suis pas sûr. Mais donc ma question porte sur le qu'on écrive. Est-ce qu'on peut paraphraser, pasticher Lacan, qu'on écrive reste oublié derrière ce qui s'écrit dans ce qui se lit. Est-ce que c'est tenable une phrase pareille? Et qu'est-ce que c'est que cette manie qu'ont certains sujets de sentir obligé d'écrire à certains moments de leur vie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà les questions. Marie-Josée?
La réponse est immédiate. Alors, un moyen de changer le rapport du sujet au récit? Non. Non, je dirais non comme ça tout de suite.
Bah, c'est toi qui l'as dit.
Mais non. Je me suis mal expliquée alors si j'ai dit ça.
Peut-être qu'il a mal entendu.
Oui, parce que j'ai essayé de... Je crois qu'on part de là, enfin c'est ce que Nicolas aussi a montré, mais qu'il s'agit quand même de modifier le rapport du sujet à la parole. et à la jouissance, bien sûr. Mais alors, c'est-à-dire que la chose qui est immédiate, c'est ce que j'ai essayé de montrer avec le petit garçon là, qui s'adresse à ma collègue, c'est l'idée que dès qu'on parle, on raconte quelque chose qui a un sens. Alors on fait des années et des années d'analyse pour finalement se rendre compte au bout du compte que c'est pas ça qui compte. C'est pas ce qu'on raconte. Mais c'est qu'on le raconte à quelqu'un qui va savoir peut-être justement cerner le point du dire et pas du dit. Donc, parce que si on dit l'analyse c'est un moyen de changer le rapport du sujet au récit, je pense qu'en effet, il y a certainement quelque chose qui est modifié du rapport du sujet au récit. Des fois, j'ai des doutes. En particulier quand il s'agit de notre façon de parler de la clinique. Des récits cliniques qui ont perdu de ce que Freud justement nous a appris, nous a transmis, lire, relire même aujourd'hui les études sur l'hystérie, ça a une autre portée, il me semble, que certaines communications que l'on peut entendre ici ou là et qui ne se posent pas la question, à mon avis, justement, de ce que c'est qu'un récit, de ce que c'est que le rapport de la psychanalyse au récit. Donc, évidemment que la psychanalyse, ça change des choses. Il me semble, dans le rapport du sujet au récit, c'est ce que Nicolas a dit aussi, quand même, que ces gens qui écrivent, bon, mais ça, c'est des questions dont on va pouvoir parler, que ces gens qui écrivent viennent te parler, c'est bien qu'il y a quelque chose qui, dans l'écrit, ne fonctionne pas. Donc, c'est pas du tout la même chose. Non, mais tu auras certainement.
En t'entendant, il me vient une remarque de Lacan, on ne parle pas pour communiquer quelque chose, mais pour produire un effet. Alors, donc, je repose ma question. Est-ce que par une analyse, est-ce qu'il y a un éclairage des effets que l'on veut produire et une modification ou pas ?
Bien sûr, puisque quand même, tout le monde a fait cette expérience. Mais ça, je le savais, ça, je l'ai dit, j'en ai parlé. Mais là, je l'ai dit de cette façon-là et c'est cette fois-là que ça a eu un effet. Bon, après, passe la parole à Nicolas.
J'ai entendu. Nicolas, veux-tu la prendre ?
Bon, j'ai le choix. Si j'ai le choix, non.
Et donne-moi de l'eau.
Bien sûr.
Bah, merci pour cette phrase de Freud. Moi, je ne connaissais pas, mais c'est vrai que c'est super. Un haut degré de civilisation pour croire au hasard. Alors, clairement, ce n'est pas du tout mon quotidien. Sauf pour quelques-uns. C'est-à-dire que c'est vraiment une orientation éthique qu'ont certains sujets. Je pense que l'analyse dans ce genre de milieu a à être à la hauteur de ça. Et c'est vrai que moi, j'ai appris au fur et à mesure aussi à... Les premiers temps, quand les patients arrivaient avec des histoires complètement psychosomatiques, de causalité comme ça, souvent j'expliquais, mais non, vous savez, bon, toujours un peu de façon un peu lourdaude, mais non, on n'est pas, c'est pas, ça compte pas.
Il y a le livre Mars qui a eu un
sujet. Oui. Il y en a eu plein d'autres. Puis là aussi, il y en a qui ont fait tout un business sur la mentalisation, sur toutes ces choses-là. Bon, maintenant, je me sers de l'histoire, c'est-à-dire je me sers du récit sans y croire, sans y identifier le sujet. Pour qu'il puisse déplier son truc, pour qu'il puisse quand même déplier son histoire.
C'est le seul moyen.
Voilà, c'est le seul moyen. J'ai mis du temps à le comprendre, moi aussi. Et donc, certains sujets ont cette position par rapport au réel qui est d'essayer d'en dire quelque chose, même s'ils savent que c'est impossible. C'est-à-dire que très vite, ils se heurtent à cette... C'est pour ça que j'aime beaucoup cette clinique et que j'y passe encore beaucoup de temps. C'est qu'il y a un effet... certains patients, je ne sais jamais le dire bien, ça, mais... commencent leurs entretiens avec un psy à l'hôpital sur un moment de traversée. Mais c'est une traversée sauvage du fantasme. C'est-à-dire que le réel leur tombe dessus, quelque chose est traversé de façon brutale et sauvage. Ils sont complètement démunis face à ça et ils viennent parler à ce moment-là. Et certains ont ce courage, je ne sais pas si on peut dire ce mot, bon, je le dis, de ne pas recouvrir ça tout de suite et de tirer quelques conséquences de ce qui s'est passé par la parole ou par l'écriture. Après, l'écriture, on ne peut pas en faire... Enfin, il y a écriture et écriture, là aussi, il y a... il y a un truc qui va sortir où j'ai mis écriture au pluriel, un petit bouquin qui va sortir, parce que très clairement, l'écriture peut participer du blabla le plus commun. Certains patients vont écrire des tas de blogs ou des choses très longues où rien ne va se dire. Ouais.
Il y a quand même oui,
l'acte d'écrire.
L'acte d'écrire.
Je ne sais pas si c'est un acte aussi particulier, là aussi, sauf pour certains.
C'est le marbre aussi, c'est laisser une trace, on rejoint le marbre.
Quand tu veux bien laisser, par contre, ouais. Merci.
Alors, mais justement, il y a la trace et il y a aussi l'adresse. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui, à la fois, publiaient, étaient très contents d'avoir des blogs commentés. Parce qu'un blog, on peut écrire un billet sur un blog. Par exemple, une fille qui s'appelle Marie-Dominique Arrigui avait 800 ou 900 commentaires à chaque fois qu'elle publiait un machin, quand même. Donc c'est une audience absolument remarquable.
Ça peut être moins seul, quand même.
Voilà. Certains mettent ça au fond d'un tiroir et ne le livrent jamais. Et en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, il y avait vraiment un enquistement. Enfin, il y a quelque chose d'une douleur qui s'entretient, d'une jouissance qui s'entretient à écrire et à laisser ça dans le tiroir. Et on voit à quel point ça change quand ils se décident à faire circuler ça, à le faire lire à d'autres. Le fait d'écrire comme un acte, alors je crois que c'est là aussi, sans généraliser, je crois que ça a à voir avec le déclenchement aussi. C'est quelque chose d'un déclenchement. C'est-à-dire que certains patients se trouvent, certes avec une éruption de réel, mais aux prises avec un signifiant traumatique qui va s'imposer. Et je pense qu'il faut traiter ce truc-là. Et l'écriture peut être pour certains une manière ou de geler complètement les choses quand c'est pas publié, quand ça ne circule pas, ou de mettre ce signifiant au travail et d'essayer de l'articuler dans une chaîne. Il pourrait faire ça avec la parole, certains le font avec l'écrit.
C'est pas pareil. Voilà. Il me semble que c'est pas pareil. C'est pas pareil de se confier à quelqu'un, de parler et de.
Mais c'est, oui, en même temps, c'est pas exclusif. Moi, j'ai.
Non, pas du tout. Ouais. Justement, parce que c'est distinct, c'est pas du tout exclusif. Ça reste mystérieux. Enfin, pour moi, ça reste mystérieux. C'est... Non.
Schreiber, il a écrit avec ses petits bouts de papier, toilette.
Tu veux pas prendre le micro ? Tu te passeras après à Colette.
Je veux dire, ça dépend à qui on s'adresse, parce que le président Schreiber, il a écrit. C'était sa seule façon d'essayer de trouver une réponse. Mais il s'est adressé au monde. Les blogs, ça s'adresse au monde, non ? Il n'y a pas une adresse.
Non, mais indépendamment de l'adresse, il pratique.
Et ça passe par le corps, alors.
Oui, mais regarde, prends l'exemple du journal d'Anne Frank. Il y a l'impossibilité d'adresser à quiconque ce qui lui arrive, mais tout de même, elle invente un personnage à qui elle écrit, une amie. Et donc, effectivement, il y a parfois l'écriture qui supplée à l'impossibilité de s'adresser à quelqu'un d'incarné, qui imagine l'autre à qui on s'adresse, cet autre qui peut être soi-même. Hein? Donc c'était à propos de l'écrit et du dire. Dans le récit, il me semble qu'il y a deux types de récits. Le récit et la parole, parce que ça renvoie à ce que parler veut dire. Il y a le récit explicatif, mais tout récit n'est pas forcément explicatif. Et effectivement, il y a dans le récit la nécessité de mettre en mots, enfin, les mots qui s'imposent pour sortir ou pour s'écarter de l'indicible, justement. Et alors, dans ces cas-là, il n'y a pas de sens explicatif. Et c'est ce qui peut-être rejoint le mieux le mot d'esprit. En écoutant, je me disais que le mot d'esprit qui était là, justement, pour pointer le hors-sens qu'il y a dans tout signifiant, peut-être que ça renvoie, enfin, ça se rapproche de ces récits qui n'ont pas... qui ne cherche pas d'explication et du coup se rapproche d'un dire. Enfin, c'est ce qui me vient en vous écoutant.
Une question comme ça, excusez-moi, informative. Est-ce qu'il y a aussi des blogs où les gens publient la photo de l'évolution de leur corps ? Oui, il y a ça aussi, mais c'est pas les mêmes.
En général, non, mais on peut tout trouver, vraiment.
Mais alors, est-ce que...
J'imagine qu'il va y avoir aussi des gens qui...
Le site dont je parlais, le site de témoignage, qui, si vous voulez aller voir, ça s'appelle lachainerose.fr, ce qui n'est pas un site porno, mais vraiment un site
Pourquoi rose ?
Y a des vidéos, aussi il y a des vidéos, des photos, des dessins, enfin tout support est...
Jacques, tu viens, moi, tu veux venir, s'il te plaît ?
Je viens jusque à toi.
Lève-toi et parle assez fort. Ouais, on va. Non, mais
surtout, c'est une précision, j'aurais bien aimé la référence à Queneau. Je pense qu'elle ne vient pas tout à fait par hasard dans ton discours, donc
oui,
la référence à Queneau me paraît importante et j'ai l'impression que tu pourrais en dire un petit peu plus parce que c'est toujours ces références parce qu'après tout c'est une question de style qu'on pose, enfin que tu poses avec la
Alors, pourquoi j'ai cité Queneau ? Parce que c'est une association. Je suis... Dans mon développement, là, je suis arrivée sur la question du bien-dire. Hein, et que le bien-dire, c'est ce qui venait, en quelque sorte, s'opposer à l'exercice de style. Au fait qu'on pourrait prendre, l'événement qui amène un sujet à l'analyse, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre du réel, on peut le dire de multiples façons, on n'arrivera jamais à recouvrir le réel qui est en jeu. C'est ce que Queneau fait dans Exercice de style. Okay, et là, je me suis souvenue que Queneau avait quand même fait une analyse et qu'il en avait témoigné. Donc, je suis allée relire, vite fait, quand même, Chêne et Chien, où effectivement, donc, dans cette première partie, il raconte sa vie. Et donc, dans cette deuxième partie qui commence par « Je me suis mise sur un divan et... » Et là, le style, bon, alors ça voudrait le coup de commenter ça de près, mais je n'ai pas choisi de faire ça, parce que, alors, d'une part, c'est la question de la forme, c'était aussi l'opposition que j'essayais de faire valoir un petit peu la différence entre le traitement de la parole par la littérature et par la psychanalyse. Où est-ce qu'elles ont quelque chose à voir et où est-ce qu'elles se séparent ? Et là, dans le récit de Queneau, en fait, il témoigne bien du fait que l'inconscient vient toujours mettre le bazar. Hein, là où il pensait avoir réussi à trouver une forme très littéraire, pour le coup, puisque c'est un roman en vers, donc quelque chose de très, très construit, il y a un moment où ça ne tient plus la route, ça ne rend pas compte, ça ne peut pas prendre en compte le réel, et pour cause. Hein. Il n'y a aucune forme littéraire qui soit à la hauteur du réel. Les écrivains eux-mêmes le disent d'ailleurs, surtout ceux qui se coltinent la question de près.
Du réel.
Ben, à la hauteur au sens de... Mais c'est
à mesure, mais à la hauteur.
Oh.
J'ai entendu hauteur sans H.
Merci Colette, c'est joli ça. Ben, à la hauteur dans le sens où parce qu'on ce qu'on dit tout ce qui est de l'ordre de la forme et tout ça, on a tendance à penser que c'est justement le top. Alors que on essaye, oui, mais c'est quand même ça se discute, oui, mais bien sûr, on est là pour ça. Mais parce que il y a quelque chose de la... Oui, mais c'est vrai que ce soir, je mets beaucoup l'accent sur, justement, la vanité du récit et de l'ordre narratif. C'est-à-dire que le récit, c'est quand même une façon d'essayer de donner un sens, une orientation à l'événement. Hein, donc il y a une part...
C'est vrai qu'il y a une part mensongère, mais le réel n'est pas plus vrai.
Non, ben non, ben, ça se saurait, justement, sinon. Mais c'est bien ça qui est difficile. Hein. Et c'est pour ça que j'ai l'impression d'être sur une espèce de, oui, de fin cheveux, là, et d'essayer de se tenir comme on peut sur ce chemin qui oui, les anciens disaient ça très bien, finalement, avec cette histoire d'Ode et d'Odyssée. C'était une très jolie façon de le dire. Bon, j'ai perdu. De Queneau, oui, mais je ne sais pas si j'ai répondu à Jean-Jacques. Mais non, mais c'est très intéressant de le relire, parce que il a une façon... finalement, je trouve que c'est un échec. Ce qu'il écrit là, c'est un échec. Mais c'est un échec heureux. Il y a des échecs qui sont... C'est comme un lapsus ou comme un acte manqué.
Alors, si je comprends bien, le récit, je veux dire, le réel... Le réel, disons... Comment on l'attrape? On l'attrape à partir de là, ce qu'évoquait Andrien, c'est le... Bien, on l'évoque à partir de l'événement, mais très vite, l'événement, entre guillemets, traumatique, prend une place dans un récit. Et puis, il y a, qu'est-ce que c'est? Justement, ce que tu dis, c'est que, en réalité, c'est dans le récit lui-même qu'il apparaît un bug. C'est comme ça que j'ai compris ta référence au polar. Au polar, c'est-à-dire la chose inaperçue dans le récit. Moi, je pensais à Blow Up, ou à... Voilà, c'est la chose inaperçue qui... Il faut le récit. Oui, il faut le récit pour qu'apparaisse le bug, le trou. Et là, c'est pareil, c'est comment on fait avec l'événement, une sorte de continuité, sans tomber, alors là, c'est vrai que la citation est très bienvenue, hein. C'est-à-dire sans tomber dans l'explication causale, j'ai fait cette maladie parce que, etc. Parce que, voilà, il y a eu ça dans ma vie, donc je suis tombé malade. Bon. Donc, en même temps, avec cette tentation, que c'est quand même si c'est de notre faute, hein, on a fait une connerie et qu'à cause de ça, on est tombé malade, c'est quand même mieux que ce soit seulement dû au hasard. C'est quand même mieux au point de vue...
C'est mieux au sens où c'est pour toi, ça t'est adressé, ça te distingue.
Voilà, c'est ça.
Alors que le hasard, ça ne t'est pas adressé.
C'est ce que je voulais dire en parlant d'une topique de certains récits ou certains écrits qui écrivaient une topique du réel, c'est-à-dire certains écrits ménagent cette place du trou à l'intérieur même du récit, ce qui est rare et tout à fait touchant, je trouve.
Alors, Colette, je quand même, si tu permets, je vais poser une question, puisque là, et puis je te passe le micro. C'est une question sur la différence entre ce réel dont tu parles de l'accident corporel grave, ou de, ça peut être un attentat, ça peut un événement dans la réalité, et ce que nous appelons le réel pour un sujet en analyse. Il me semble que c'est quand même pas le même. Il est déterminé, celui du sujet.
Ma première justement. Phrase, c'était le réel est multiple, effectivement. Moi, je prélève cette occurrence-là.
Oui, Enfin bon, ça rejoint peut-être cette question. Ce n'est pas le même réel dont on parle certainement dans l'analyse et dont on parle quand on reçoit des sujets et qu'on appelle le cancer réel. On le met sur le compte du réel dans la mesure où on postule qu'il ne doit rien au symbolique, justement. C'est pour ça qu'on l'appelle réel. Hein, bon. Donc, sur ce point-là, là, je n'ai pas grand-chose à dire là pour le moment, mais je trouve que la question du récit, et c'est très présent dans l'exposé de Marie-Josée, ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une psychanalyse, quand même. Parce que actuellement, l'idée courante et dégradée, c'est qu'on va parler à quelqu'un. Bon, on va parler... Pas chez nous. Non, nous, on est passé sur un autre versant. C'est autre chose. Mais je parle de l'idée commune. On va parler à quelqu'un. Bon, et on va parler parce qu'on a des symptômes, et il y a du réel là derrière, on le postule. Bon, donc le postulat de la psychanalyse, c'est juste l'inverse de Wittgenstein. Ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire, et nous, ce qu'on ne peut pas dire, il faut le dire. Bon, et finalement, Freud a inventé un dispositif qui était en rupture avec le récit. Vous l'avez bien fait valoir, l'association libre, c'est en rupture avec le récit. Mais il faut bien dire que ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Le sujet arrive et il n'a qu'une idée, c'est de se raconter. Se raconter. La délectation que c'est de se raconter. Alors bon, évidemment, Lacan... qu'est-ce qui fait rupture avec cette tentation-là ? Ben, c'est la référence à la structure. C'est pour ça que Lacan peut dire, vous l'avez évoqué Marie-Josée, ben, il ne suffit pas de raconter un cas, de faire le récit d'un cas clinique pour faire de la clinique. Parce que faire de la clinique, c'est autre chose que de faire un récit. Et donc, d'une certaine façon, dans le thème qu'on a pris, cette année, pour le séminaire, il y a aussi une question sur la psychanalyse. Et il faut bien dire que les pratiques de la psychanalyse, là-dessus, ne sont pas du tout homogènes dans le monde. Elles ne sont pas homogènes en Amérique latine, en Europe, entre les lacaniens, les autres, etc. Mais et qu'il y a quand même une grande partie du monde analytique... Qui font raconter leur histoire aux patients. Ça a des effets, d'ailleurs, de raconter son histoire, surtout que l'adresse a des effets. Il n'y a pas que le fait de mettre en mots. L'adresse a des effets déjà en elle-même, et on obtient certains effets thérapeutiques uniquement en se racontant. Et je dois dire que je trouve que ce n'est pas si facile de faire passer en pratique que ça, ce n'est pas une psychanalyse. Ce n'est pas si facile. Hein.
Alors, c'est quoi?
Eh ben, précisément, on ne peut pas dire ce qu'est une psychanalyse sans la référence à une structure. Et Lacan, il a passé sa vie à élaborer des structures successives, celle de la parole, qu'on a d'ailleurs bien oubliée, je trouve. On devrait retravailler le texte variante de la Curtip, que l'on a bien oublié. On s'en aperçoit tous les jours. Bon. Et il a élaboré des séries de structures, et toute la clinique de Lacan est une clinique structurale, jusqu'à la fin, jusqu'au neubroméen. Autre structure, mais c'est une clinique structurale. Sinon, la psychanalyse, c'est se raconter.
Alors, qu'est-ce que ça donne pour un sujet, une psychanalyse par la structure ? Qu'est-ce que ça donne alors, pour un sujet dans son rapport au récit ?
Voilà, alors, par ailleurs, alors, ce qui se passe, on peut dire que d'une certaine façon, il y a un réel du langage qui quand même sauve un peu les choses, c'est que pour peu que, comme dit Lacan, l'analyse ne va pas toujours jusqu'à son terme à cause des conséquences qui viennent au dit, donc il suffit de quelques... du récit de quelques dits pour avoir des effets thérapeutiques, si le patient ne s'arrête pas, là, et qu'il continue, alors là, il tombe sur un autre réel. Et il tombe sur l'impasse de la vérité. Sur que plus il la cherche, plus il court, et plus elle s'éloigne, etc. Sur le midir, sur le mensonge. Donc, au fond, je dis, il y a la référence à la structure pour penser la clinique, et puis il y a quand même l'insistance de l'expérience jusqu'à ces points d'impasse. Retrouver du réel propre à la psychanalyse. Hein. C'est pas seulement le réel traumatique d'origine. Celui-là, bien sûr, il est là. Mais dans la psychanalyse, on bute sur des impasses qui sont du réel, par définition. Bon, je dis ça dans l'improvisation, mais ceci pour dire que cette question du récit, du se raconter, met en question le statut même de la psychanalyse, je crois. La psychanalyse lacanienne, en tout cas.
Je crois que cette question de l'historique, là, il me semble que c'est ça qui est en jeu. Là. C'est la structure Borromène à la fin dans la préface. Et s'il l'écrit, dans le séminaire à l'insuccès, s'il l'écrit comme ça, avec cette référence à la topologie, c'est bien pour essayer de ramener la structure au premier plan, dans ce qui nous oriente. Mais c'est très difficile et j'aurais bien aimé pouvoir déplier davantage ce que ça veut dire, ça. C'est juste de faire comme ça apparaître le tort dans l'histoire, ouais, et dans l'historique. Mais il m'a fallu tout ce, ça sera pour une autre fois, il m'a fallu tout ce chemin finalement pour arriver à essayer de vraiment prendre la mesure de ce que c'est que cette historisation. Je trouve que c'est un terme qu'on emploie et vraiment très facilement, alors que c'est un enjeu, il me semble, crucial par rapport à ce que c'est qu'une psychanalyse pour Lacan en 1976. C'est pas tout à fait la même chose que en 1953.
Bon, c'est pas du tout la même.
Oui. Oui, oui. Mais c'est bon. Et du coup, c'est pour ça que j'ai été amenée, bien sûr, à Joyce par rapport à ce que j'appelle la dyslexie joycienne, hein, quand il parle d'historisation pour faire entendre l'autorisation, c'est quand même un sacré tournant, quoi, hein, un sacré enjeu.
Ah oui, on peut. Je fais une connexion, c'est juste un rebond, là, puisque vous avez évoqué la généalogie, c'est quand même très frappant, en effet, de voir Lacan, dans la note italienne, dire que l'analyste est en rupture avec la généalogie. Hein, et que s'il est analyste, parce que au fond, le se raconter, c'est toujours raconter une généalogie, oui, ou un manque de généalogie. Hein, ça va exactement ensemble. C'est dire d'où on vient et comment, dans la continuité humaine. Bon, ça a tout son poids, tout son prix, et dans les vies, ça compte. faut bien dire la vérité. C'est quelque chose sur lequel on pourrait réfléchir. Hein. Je ne vais pas improviser là-dessus, sans parler de Joyce. Hein. C'est pas, parce que les analysants ne sont pas Joyce. Mais l'idée que la psychanalyse conduit à une rupture avec le récit généalogique, avec la prégnance du récit généalogique, c'est quand même une chose capitale et qui d'une certaine façon est en rupture avec Freud, hein, et c'est en rupture avec Freud même, avec Freud lui-même, puisque bon, enfin.
Pour aller dans ce même fil, Lacan dit que pour structurer un savoir, il faut renoncer à la question de ses origines. Renoncer à la question des origines. Alors, je trouve ça, le marbre généalogique, c'est une sépulture, le marbre. Hein, c'est, faut le laisser.
Il a fait le contraire de ce qu'il a dit.
Quoi ?
Lacan a dit que c'est le principe de base du structuralisme.
Non, il a dit ça dans l'envers, je crois. Enfin, il faudrait que je retrouve la citation. Mais je trouve ça tout à fait dans le fil du marbre. Bon.
Il me semble, si vous permettez que j'intervienne dans le débat, il me semble qu'il y a une question là, quand même, que j'ai évoquée la dernière fois quand je parlais, et que tu... que tu as écouté chez moi, et à quoi tu il y a des résonances dans ce que tu dis par rapport à ce que j'évoquais. Je citais ce passage des non-dupes, 11 décembre 73, où effectivement il n'y a pas une continuité généalogique, mais il y a quand même le fait que, quand je cite la phrase, ce que vous faites est savoir parfaitement déterminé. C'est là où il dit sans pardon et sans circonstances atténuantes, c'est-à-dire sans église et sans psychologie. Savoir parfaitement déterminé, le fait que ce soit déterminé d'une articulation supportée par la génération d'avant ne vous excuse en rien, puisque ce n'est le dire de ce savoir, que le faire savoir plus endurci, si je puis dire. Donc il y a quand même quelque chose qui n'est pas une continuité généalogique, mais que le sujet emprunte, il est en lien avec la génération précédente. Absolument. Non, mais façon de dire qu'on ne peut pas complètement ignorer.
Ça n'est pas la généalogie.
Mais ça met le sujet en lien avec les générations précédentes. Il y a un lien.
Mais ça n'insiste pas sur le récit, ça insiste sur le dire. Et on est hors récit. Enfin, hors récit.
C'est pas les origines, c'est l'origine.
La thèse de Lacan,
ça commence à. Tu veux prendre le micro, tu veux pas.
C'est tout c'est ce qui change quand il commence à mettre l'accent sur le fait que ce qui vient des parents, c'est des éléments épars, des résidus. Ça n'est pas le discours des parents. La généalogie, quand on parle de généalogie, ça veut dire transmission de discours. À partir du moment où il met l'accent sur ce qui se prend chez les parents, ça se prend dans la langue, dans certains éléments de la langue, des résidus, c'est même pas la parole complète, c'est plus du tout la généalogie. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, bien sûr. L'humain a nécessairement du lien avec ceux qui l'ont enfanté. Ils l'ont mis au monde, ils lui ont permis de vivre, de ne pas mourir comme un petit animal abandonné, et ils lui ont transmis, pas le discours, mais des éléments de langue.
Et ont incarné pour lui quand même le couple parental.
Éventuellement.
Non, et comment oui. À ce moment-là, tu t'arranges avec la phrase de Lacan dans la conférence de Hans, je sais, tu vas avoir le micro. Tu peux passer le micro à ça.
Pardon, oui.
Dans la conférence de Genève.
Ça t'en pas aidé.
Tu voulais pas, ça? Ah oui, je te pose une question.
Tu poses une question à
Grelais. Oui, la phrase de Lacan dans la conférence de Joyce, à cause du type de père et du type de mère qu'il a, à propos de Hans.
C'est vrai. Oui, bien sûr.
Hans, c'est pas tout. Ça, c'est Hans. Il y a d'autres cas où on n'a pas un type de mère. Un type de père.
Mais il y a des cas où il y a un type de père et un type de mère.
Non, mais attends. Il s'agit pas de nier qu'il y a une influence parentale. Il y a la transmission des éléments de la langue. Il y a plein de choses qui viennent de l'imaginaire, de ce qu'ils représentent dans l'imaginaire, de ce qu'ils ont été dans la réalité. Bien sûr que ça a une influence. Ça a une influence, mais ce n'est pas ça qui détermine leur inconscient. Et dans la psychanalyse, ce qu'on essaye de faire, c'est d'analyser le sujet dans son rapport à son inconscient. Donc, bien entendu que les parents ont une influence. Le petit Hans, c'est son père et sa mère. Joyce, c'était d'autres types. Et chacun a les siens. Chacun a les siens. Donc, mettre en question la généalogie n'est pas mettre en question le rapport, qui a quelque chose d'un rapport aux parents ou à ceux qui ont tenu le rôle. Enfin, voilà. Et on peut décliner tous les niveaux d'une influence, bien entendu, mais ça ne fait pas une généalogie.
Ok. Salut.
Oui, je voulais revenir sur le... Il faut un haut degré de civilisation pour croire au hasard. Parce qu'il me semble que c'est, on tourne autour de ça. Plus on croit au hasard, moins on croit au poids du récit, au récit lui-même généalogique. C'est ça la question. La question au fond est celle de la causalité. Hein, quelle place on donne à ça? Et là-dessus, je trouve qu'il y a une partie, en tout cas une ébauche de réponse à la question que tu posais au départ sur l'effet de l'analyse sur le récit. Il me semble que le récit se modifie à ce niveau-là. En tout cas, la croyance au récit se modifie. Dans le sens, justement, d'ouvrir un tout petit peu cette croyance au hasard, la possibilité de cette croyance au hasard. C'est-à-dire que dans ce sens-là, pour s'exprimer en termes freudiens, on pourrait voir dans la psychanalyse donc une certaine élévation du degré de civilisation. Voilà.
Il y a une très jolie phrase de Lacan qui fait un peu écho à celle de... Enfin, c'est l'inverse de la phrase de Freud. Lacan dit « On ne peut pas s'empêcher de penser que les choses sont tramées. » Tramées, j'aime beaucoup cette expression. « Les choses sont tramées. Hein » Se défaire de l'idée que les choses sont tramées.
Mais l'effet d'une psychanalyse aussi, c'est que le récit s'épuise. Et ce qui est intéressant dans la passe, c'est aussi d'essayer d'aller dire avec des mots le moment où il n'est plus besoin de raconter. Ou en tout cas, où le récit est épuisé. Nicolas, je voulais juste faire une remarque. Je crois que c'est vous qui avez pointé en début de votre exposé que là où on ne pouvait pas dire l'indicible, il y avait le recours... obligatoire, en tout cas ou nécessaire à l'imagination. C'est dans la préface de Anthelme. Et en vous écoutant, puisque vous souleviez la solution aussi par la production artistique, je pensais à ce film qui a entraîné tant de polémiques, qui était ce très beau film de Roberto Benigni, La vie est belle, où effectivement, pour avoir recours, pour essayer de dire, il a fallu imaginer une histoire, un film qui a suscité des tas de critiques, et que Imre Kertész signale comme étant un excellent film et un chef-d'œuvre. Voilà. Bon, on a été quelques-uns à beaucoup l'aimer, mais
Germano Pratin,
voilà. Mais en tout cas, Pratin.
C'est quoi ça?
De Jacin Germain Després.
Une question qui n'est pas du premier rang.
Je voulais juste faire remarquer que peut-être maintenant, au fur et à mesure de la discussion, mais relié à quelque chose que Nicolas, tu as dit juste à la fin de ton texte, où tu disais « il m'a fallu du temps en tant qu'analyste pour réaliser que déplier l'histoire n'était pas le but, mais seulement le seul moyen. » Voilà, quelque chose comme ça. Et je me disais que peut-être la phrase de Freud, il faut un haut degré de civilisation, c'est adressé aux analystes. Il faut un haut degré de civilisation de travail pour les analystes, pour croire au hasard. Parce que nous aussi, on est tentés de se raconter des histoires et de contribuer à...
Le grand principe, c'est pas par hasard.
Oui, c'est ça.
Voilà. Vous êtes tendu le pied.
C'est pas par hasard. Le genou, c'est genou. Voilà. Donc pour nous, on doit sortir de tout ça.
Il y a des pages et des pages dans les considérations actuelles sur la mort de Freud, où il explique qu'on trouve mille raisons d'expliquer que notre mort est due à des causes absolument... Ça, c'est son grand texte sur la mort.
En premier lieu, le médecin. Le médecin sert à ça.
Bien que ça serve à quelque chose.
Ah oui. Alors quand même, il y a un truc qui m'a... Après, on va se séparer, ou on va peut-être prendre un pot, je ne sais pas s'il y a quelque chose de prévu pour fêter nos amis. Au revoir. Le truc, là, l'exemple clinique de ta collègue, l'enfant qui sort sa rafale de mots désarrimés dont elle fait une signification, on s'est beaucoup gossé à une époque, nous, quand on était jeunes, de Cohut. Cohut faisait ça. Avec les schizophrènes. Avec les schizophrènes qui sortaient des mots comme ça, hors syntaxe, ils construisaient une signification. Ils fabriquaient l'histoire, et on s'est beaucoup, beaucoup, au début de l'école de la cause, moqué de ça, moqué du fonctionnement de Cohut. Or, c'est ce qu'elle fait, et ça marche apparemment. Alors...
Alors ça marche. La question c'est que non, ça marche pas. C'est... Ça marche pas. Ça non plus, ça marche pas.
Il y a un petit air de...
Ça marche plus non plus.
Un petit air de fin de soirée. Alors vas-y.
Non, ça marche pas. Ce qui marche, c'est sur elle que ça a un effet. C'est-à-dire qu'elle est absolument saisie que la question qu'elle lui a posée ne le ravage pas pour une fois. Hein, mais, et, parce que c'était une vraie question, je pense, enfin, à mon avis. Hein, et que du coup, l'enfant l'a senti et s'est autorisé à parler, à raconter sa petite histoire. Mais ça n'a aucun effet. Par contre, ce qu'il y en a un après dans la suite du travail... C'est effectivement quand il avise le pot là, de pâte à modeler qu'il a mis plusieurs séances à vider et qu'il lui dit, il lui adresse, ça fait du bien quand il n'y a rien dedans et que là, elle lui dit oui. Et oui. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'elle-même, elle quitte un peu la tentation d'aller en rajouter et de remplir justement. Et ça a un autre efficace. Après, bon, je vous ai donné qu'une petite séquence. Hein, mais...
Alors, je crois que nous pouvons remercier encore nos deux intervenants. On peut raconter ce qu'on veut. C'était une belle soirée.
Merci. Est-ce que je peux signaler quelque chose?
Oui.
Je voudrais signaler que dans quelques semaines, vous pourrez regarder dans les librairies, il y aura un petit livre de Nicolas Benrien qui va sortir aux éditions de La Muette et qui est écrit à partir de sa thèse et qui s'appelle Griffer le mur. Griffer le mur.
Gratter le mur.
Pardon.
Merci pour cette information.